Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h sur Europe 1.
Je n'ai rien contre les touristes. Ce qui est important, c'est que chacun respecte les règles. Qu'on n'arrive pas à être privé de la plage à cause de ça. On risque d'être puni, quoi, c'est tout.
Deux tiers des Français sont désormais placés sous couvre-feu, ce qui veut dire qu'un tiers de la population est encore libre et ne veut pas voir débarquer des vacanciers inconscients.
Car la menace est là, l'épidémie continue de se propager. Plusieurs hôpitaux saturés transfèrent déjà certains patients.
Leur mobilisation finit par payer. Les salariés de Nokia viennent de sauver 160 emplois à Lannion, dans les Côtes-d'Armor.
C'est le match qui fait rêver toute l'Espagne. Barcelone contre Madrid, une rencontre que l'on suivra côté français aussi. Zidane et Griezmann veulent sauver leur place.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
54 départements sont placés sous couvre-feu depuis minuit. La mesure a été étendue. Elle concerne désormais deux tiers des Français.
Des habitants contraints de rentrer chez eux à 21h pour éviter les regroupements en soirée. Couvre-feu, mais aucune limitation de déplacement dans la journée. En pleine vacances de la Toussaint, certains cherchent donc la liberté. La Baule, par exemple, qui n'est pas placée sous couvre-feu, voit débarquer des touristes, ce qui inquiète fortement les habitants. Reportage de notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon.
Le nouveau maire, les Républicains de la Baule, Franck L'Ouvrier, a fait de la lutte contre le Covid son obsession en créant une cellule de veille sanitaire locale, une dizaine de victimes du virus recensées, mais peut-être sensiblement plus dès ce week-end.
Il va y avoir plus de monde, notamment venant des départements limitrophes qui sont touchés par le couvre-feu. Bien sûr qu'il y a un risque. Nous avons le nez sur le guidon des cas de Covid. Et s'il y a une éventuelle poussée de fièvre, nous prendrons des mesures plus drastiques.
Ces migrants du Covid donnent la frousse à une frange plutôt âgée de la population bauloise, plus vulnérable, Dominique.
À partir du moment où ils débarquent en zone bord de mer, c'est festif, on oublie les règles.
Ça vous fait peur, ça, un peu ?
Ça affole beaucoup de personnes. On ne se regroupe pas à 15 pour déjeuner. Les fêtes à 10, on dort tous ensemble, il faut les abandonner. Parce que c'est le développement des foyers. Quoi.
Le masque est obligatoire ici depuis 8 jours sur l'ensemble de la commune, y compris sur la plage de 9 km. C'est le béaba pour Nadine.
Je n'ai rien contre les touristes qu'on est bien content de trouver par ailleurs. Ce qui est important, c'est que chacun respecte les règles. Qu'on n'arrive pas à être privé de la plage à cause de ça. On risque d'être puni, quoi, c'est tout.
La Baule affiche des bras grand ouverts, mais refuse la politique dangereuse de l'open bar. La Baule, François Coulon, Europe.
Il y a donc ce couvre-feu et peut-être d'autres mesures à venir. Jean Castex a prévenu les Français jeudi dernier et Emmanuel Macron hier n'a pas écarté l'idée de reconfiner localement la population.
Oui, car l'épidémie continue de s'aggraver. Plus d'un million de cas désormais et près de 35 000 morts.
Dans les hôpitaux, les places en réanimation se raréfient. Par endroits, la saturation menace et comme au printemps dernier, on transfère des patients d'un hôpital à l'autre. Seule solution pour soigner tout le monde. Après le Nord, c'est aujourd'hui la métropole de Lyon qui évacue ses malades, faute de lit. Plusieurs patients ont été transférés à Bordeaux. Stéphane Place.
Transfert opéré en avion sanitaire avec l'appui des équipes du SAMU de la Loire et du Rhône, puisque ces patients, intubés, ventilés, 8 au total, souffrant de la Covid-19, arrivent de Lyon, Saint-Étienne et Villeurbanne. Désormais, ils sont soignés ici, en Nouvelle-Aquitaine, à Poitiers, Brive et au CHU de Bordeaux. Anesthésiste réanimateur, le docteur Catherine Fleureau y préside la commission médicale d'établissement.
On a encore un petit peu de marge de manœuvre, sur Bordeaux en tout cas, sur le CHU de Bordeaux, parce que c'est vrai qu'on a été jusqu'à présent impacté, mais de façon bien moins importante que ça n'a pu l'être dans les autres CHU. Donc on a un peu de marge de manœuvre pour accepter ces patients. Pas énorme, bien évidemment, parce que comme sur tous les CHU de France actuellement, c'est la période des infections saisonnières, la grippe, mais pas que. Et donc c'est dans une période assez compliquée. Mais c'est vrai qu'on avait un peu de marge de manœuvre, contrairement à certains autres CHU.
Marge de manœuvre d'autant plus restreinte que les hospitalisations pour d'autres pathologies reportées au printemps dernier ne peuvent plus être décalées et mobilisent aussi aujourd'hui les différents services du CHU. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Les députés doivent valider aujourd'hui la prolongation de l'état d'urgence sanitaire déjà décidé par l'exécutif. Prolongation jusqu'au 16 février, mais qui pourrait être à nouveau étendue jusqu'au 1er avril.
Ouais, et nous irons dans l'Est tout à l'heure avec le maire de Nancy, Mathieu Klein. Ça sera l'interview politique de 8h15. Conséquence de cette deuxième vague, la liste des événements annulés continue de s'allonger. Le carnaval de Dunkerque, par exemple, n'aura pas lieu.
Au-delà des masques et du traditionnel lancé de harangue, le carnaval, c'est bien sûr une manne pour tout un territoire, privé cette année donc de retombées économiques. Reportage à Dunkerque de Lionel Gougelot.
Tambour-major, en quelque sorte chef d'orchestre de la bande du carnaval de Dunkerque, Pascal Bonne visionne avec nostalgie la vidéo du défilé de l'hiver dernier.
L'année passée, voilà, on a vu ça.
Ça donne des frissons d'ailleurs.
Victime du Covid, le carnaval 2021 n'aura pas lieu. Une sage décision concède toutefois le tambour majeur.
Quand vous voyez des milliers de personnes dans la rue se tasser, bras dessus, s'embrasser, faire des... Vous avez une masse de population quand même assez dense et donc du coup, je pense que c'est pas la peine de jouer avec le feu.
Mais pour tous les Dunkerquois, cette annulation est plus qu'un crève-cœur, c'est une véritable déchirure.
On va peut-être inventer un nouveau virus, c'est celui de la dépression carnavalesque, je pense, parce qu'on sera tous à un moment donné voir approcher la date et puis on sera tous comme ça, on va se regarder dans le blanc des yeux. Ça va être super triste.
Le carnaval annulé, c'est une perte évaluée à près de 8 millions d'euros pour l'économie locale. Un désastre pour l'hôtellerie-restauration. Adeline Cordier, directrice de la brasserie du Grand Morien.
Effectivement, c'est un gros coup dur parce que le carnaval dunkerquois, c'est une période de festivité dans laquelle on a la chance de pouvoir travailler bien plus que la moyenne de d'habitude. Donc aujourd'hui, effectivement, on va avoir un gros manque à gagner par rapport à cette annulation de carnaval.
Certaines entreprises, notamment dans l'événementiel, pourraient ne pas s'en remettre avec à la clé des suppressions d'emplois. Dunkerque, Lionel Gouge.
On navigue donc depuis le printemps entre les annulations pures et simples et les événements qui se réinventent pour tenter de survivre. Le monde de la culture n'entend pas baisser le rideau.
À Avignon, le couvre-feu s'appliquera ce soir. La semaine d'art aura bien lieu. C'est en quelque sorte le rattrapage de l'été dernier. L'événement se tiendra donc bien. Les horaires seront aménagés. Nathalie Chevance.
Je l'ai laissé à la porte à m'attendre.
Dans les salles de théâtre, certaines représentations démarrent désormais à 11h du matin. Aucune importance pour Jérémy, comédien, qui ne s'est pas produit depuis 6 mois.
Revenir. On passe entre les gouttes. On sait qu'on est très chanceux, pris par l'énergie de ce travail-là. On oublie tout aussi.
Et ce plan B permet à Serge Barbussia, metteur en scène, de jouer pour la première fois Tango Neruda, déprogrammé l'été dernier.
Là, il fallait qu'on joue, quelle que soit l'heure. Il fallait jouer, le public en a besoin. Le théâtre a besoin d'exister. Les fauteuils ont envie de gens qui viennent s'asseoir, qui viennent écouter, qui viennent partager. Je pense qu'ils sont beaucoup mieux chez nous que dans un bus rempli ou dans le métro. L'objectif, c'est de vivre.
Avec un protocole sanitaire strict, de quoi rassurer Christian, retraité, qui vient réserver ses places. Geste citoyen, dit-il.
On a envie que ces théâtres y vivent aussi. Hein. Donc quand on a des petits revenus, mais assez pour se payer ça, eh ben on vient. Croyez-moi, il y en a qui galèrent. Hein.
Car les jauges dans les salles sont divisées par deux, mais le public est bien là. Sylviane Messonnier, administratrice du Théâtre du Balcon.
Là, sur la semaine d'art, on voit qu'il y a des gens aussi qui sont à une heure de route, qui nous appellent pour savoir s'ils vont être rentrés à temps pour le couvre-feu. Il y a une solidarité et une citoyenneté pour vivre une émotion commune. On a besoin de ça.
Avec des amoureux du théâtre qui espèrent cet été le retour d'un vrai festival. Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1.
7h07, vous restez avec nous. Dans un instant, Nokia fait marche arrière. Le groupe finlandais retouche son plan de licenciement en France. A tout de suite.
Europe 1. Votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, la décision avait pris tout le monde de court juste avant les vacances d'été. En juin dernier, Nokia annonçait la suppression de 1200 postes en France.
Donc 400 sur le seul site de Lannion dans les Côtes d'Armor. 4 mois plus tard, le groupe de télécom rétropédale. La direction affirme que 162 postes seront maintenus et que d'autres seront même créés dans un nouveau centre. Le maire de Lannion, Paul Le Bihan, veut toutefois rester prudent.
J'ai une réaction un peu mitigée parce que on est passé de 402 suppressions d'emplois à 240 et donc 160 emplois de sauvés. Pour autant, ça reste quand même 240 suppressions d'emplois, ce qui est quand même encore énorme par rapport au site de Lannion. On savait qu'il y avait des services entiers qui disparaissaient en termes de 4G, en termes de 5G même. Maintenant, est-ce que parmi les emplois sauvés, quel domaine ça concerne? C'est intéressant de le savoir aussi. Quel type de profil? Et puis, ce qui est positif, par contre, c'est la création de 97 emplois en cyberdéfense ou cybersécurité. Ces 97 emplois qui seraient créés sur Lannion, alors est-ce qu'ils peuvent être occupés par une partie des 240 qui vont être supprimés? Ça reste aussi à définir. Et puis, à quelle échéance? Comment? Est-ce que c'est vraiment acté? Est-ce que c'est sûr? Ça reste aussi à vérifier. Quoi.
Paul Le Bihan, le maire de Lannion, avec Jiyan Bergaoui et puis les salariés de General Electric, eux, se mobiliseront en début d'après-midi à Belfort. Mobilisation contre les suppressions d'emplois dans le groupe. Jean Castex annoncera dans la matinée une série de mesures pour lutter contre la pauvreté. Le plan sera axé notamment sur les jeunes.
Et il a pu s'expliquer pendant 48 heures devant la cour d'assises de Paris. Sid Ahmed Glam a été interrogé par les juges.
Soupçonné du meurtre d'Aurélie Châtelain, soupçonné d'avoir voulu perpétrer un attentat contre une église de Villejuif, c'était en 2015. Il a maintenu sa version des faits en invoquant un mystérieux complice, Justin Morin.
Oui, Sid Ahmed Glam, toujours aussi hésitant, a pu expliquer comment son prétendu complice, Abou Hamza, a tué Aurélie Châtelain. Un déclic pour l'accusé. C'est la première fois que je voyais une femme décédée. Enfin, sauf les vidéos d'exécution, mais j'ai su à ce moment-là que c'était impossible pour moi de tuer des gens. Agacée, la mère d'Aurélie Châtelain se frotte les yeux, ses mains tremblent. La présidente demande des précisions. Comment il était physiquement ? Il était grand, l'accusé réfléchit. Il m'arrivait à peu près au menton, n'en dis pas plus. L'avocat des parties civiles le reprend alors sur ce point en posant une question surprenante. Monsieur Glam, êtes-vous capable de décrire Monsieur Markovic, du nom d'un autre accusé assis à quelques mètres de lui? Il est chauve. Est alors diffusée une photo du prétendu complice Abou Hamza, identifié plus tard dans les attentats du Bataclan. L'avocat poursuit. La première caractéristique physique d'Abou Hamza, comme Monsieur Markovic, c'est qu'il n'a pas de cheveux, et ça vous ne l'avez jamais dit. Silence pesant, la présidente insiste sur les incohérences, il ne sait plus, ne se souvient plus. L'enquête, comme son attitude, l'accable, mais Sid Ahmed Glam ne cédera pas. Jusqu'au bout de son interrogatoire, il a persisté sur sa version. Aussi grotesque soit-elle.
Le récit de Justin Morin. En football, il y avait de la Ligue 1 hier soir. Rennes a essuyé sa première défaite de la saison face à Angers. Ce soir, il y aura deux affiches, Lorient-Marseille et PSG-Dijon.
Et puis en Espagne, c'est THE match le plus attendu de l'année. Hein, le Classico FC Barcelone-Real Madrid.
Oui, on peut dire ça. Et il y aura dans ce Classico, dans chaque camp, un Français en très grande difficulté, Henri de Lagueyre.
Le Real Madrid n'a disputé que 6 matchs depuis le début de la saison, mais Zidane est déjà sous le feu des critiques après les deux défaites consécutives face au promu Cadix le week-end dernier et contre le modeste Shakhtar mercredi. Mal entraîné, groupe démotivé, sans solution tactique, les reproches de la presse ne manquent pas, mais des situations comme celle-ci, le Français en a déjà connu, il sait qu'il est sur un siège éjectable.
Non, mais comme d'habitude, en fait, c'est comme Cadix, comme Shakhtar, comme tous les matchs qu'on a quand on fait un mauvais match. On n'est pas à l'abri de se faire critiquer, de se dire qu'on va nous sortir.
Remporter ce classico si particulier dans un stade vide à domicile donnerait donc de l'air à Zidane. Mais en face, Barcelone semble en meilleure forme, Messi est resté et la révélation d'Ansu Fati, 17 ans, explose au plus haut niveau. Mais un autre Français sous pression, plus d'un an après son arrivée en Catalogne, Antoine Griezmann n'arrive toujours pas à s'imposer, il ne s'épanouit pas. Mais s'il venait à faire enfin un grand match face à l'ennemi juré, son statut pourrait changer dans le cœur des supporters. Barcelone, Henri de Lagueyre, Europe 1.
En rugby, on suivra la reprise du 15 de France ce soir. Les Bleus affrontent le Pays de Galles. Premier test match, ce sera à 21h10 au Stade de France. Match à huis clos, bien sûr. Vous partez en vacances, on fait la route avec vous.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
Et on fait un point sur vos conditions de circulation avec vous, Diane Berger. Diane, pour l'instant, ça roule plutôt pas mal.
Oui, c'est vraiment très fluide ce matin, dans le sens des départs comme dans celui des retours. Il y a juste quelques ralentissements en ce moment sur l'A43 à partir de Chambéry en direction de Turin et des embouteillages dans les deux sens sur l'autoroute A36 entre Belfort et Montbéliard. Un obstacle a été signalé sur les voies. Vers 10-11h, attendez-vous à des ralentissements un peu plus importants aux sorties de Paris, notamment sur l'A10 en direction d'Orléans et des bouchons sont aussi prévus dans les deux sens. Sur l'A11, entre Nantes et Angers, puis sur l'A7 entre Lyon et Orange.
Merci Diane Berger qui sera avec nous toute cette matinée.
Merci à Marguerite Lefebvre qui revient tout à l'heure pour le journal de 8h.